monastique là, donc qui est lié à la règle de Saint-Benoît. Et peut-être dire aussi quelques mots de ce qui a été évoqué, le frère qui nous a accueillis, qui nous a montré le couloir, l'a évoqué, c'est cette fonction civilisatrice de bénédictin, notamment en France, mais aussi dans d'autres régions du monde. Voilà, peut-être quelques mots sur ce n'est pas parce qu'on est dans un cloître que pour autant on n'a pas ces liens profonds et étroits avec le monde.
Tout à fait. Ouais. Merci. Merci. Alors écoutez, je vous propose quand même que ça soit plus de l'ordre d'un entretien et que vous puissiez intervenir quand vous voulez. Je vais quand même vous donner peut-être quelques petits repères historiques, mais très rapides. C'est pas ça qui, pour moi en tout cas, j'ai un grand respect pour l'histoire. Hein. C'est pas peut-être ça que je voudrais vous partager. Surtout, c'est des choses qu'on peut lire un peu à droite à gauche. Hein. Je pars d'une citation du Concile Vatican II. Qui a un décret sur la vie religieuse. C'est le décret qu'on appelle Perfecte Caritatis. C'est un des textes du Concile, vous savez, et comme les encycliques des papes, hein, leur titre est donné par les deux premiers mots latins de la Constitution. Et on s'arrange quand même pour que ces deux premiers mots, dans le latin, soient significatifs. Hein. On ne met pas simplement un jour, voilà. Ou alors ça veut dire que ce mot-là a une signification, cette expression a une signification. Donc, perfecte caritatis, hein, parfaite charité. Alors voilà ce petit paragraphe qui concerne la vie monastique. C'est intéressant de voir comment le magistère de l'Église, à son plus haut niveau, l'autorité d'un concile, vient nous présenter au XXe siècle ce qu'est la vie monastique. Que l'on observe fidèlement et que l'on fasse toujours mieux ressortir dans son véritable esprit, tant en Orient qu'en Occident, c'est intéressant, on voit tout de suite que le monachisme n'est pas spécifique à l'Occident, la vénérable institution monastique qui, tout au long des siècles, a si bien mérité de l'Église et de la société. On répond déjà un peu à votre question. L'Église, mais aussi la société. Le principal office des moines, est l'humble et noble service de la Divine Majesté dans l'enceinte du monastère. Très intéressant. Le principal office des moines, c'est l'humble et noble service de la Divine Majesté dans l'enceinte du monastère, soit qu'il se consacre entièrement dans une vie cachée au culte divin, soit que, légitimement, il prenne en charge quelque œuvre d'apostolat ou de charité chrétienne. Sauvegardant donc leur caractère propre, qu'ils renouvellent leurs antiques traditions de bienfaisance et les adaptent aux besoins actuels des âmes, de sorte que les monastères soient comme des centres vivants de l'édification du peuple chrétien. Voilà, Perfecte Caritatis numéro 9. Donc, un texte qui vous dit, un peu en synthèse, hein, comment le magistère de l'Église présente la vie monastique. Quelques aspects tout de suite qui ressortent. Tant en Orient qu'en Occident, ça veut dire que le monachisme est une institution qui n'est pas limitée à l'Occident, on va voir qu'au contraire, elle est née en Orient, qu'elle a si bien mérité de l'Église au long des siècles, hein, vénérable institution, c'est-à-dire que c'est très ancien, elle a si bien mérité de l'Église, mais de la société aussi, elle a un rôle dans l'Église, mais aussi un rôle dans la société, que le principal office des moines, c'est la prière gratuite, l'humble et noble service de la majesté divine, ça veut dire Dieu mérite qu'on lui consacre du temps, qu'on passe du temps à le vénérer, à le servir. C'est ça le principal office des moines. Et puis ensuite on a une diversification légitime, dit le texte, légitime. Soit on se consacre entièrement par une vie cachée au culte divin, la liturgie, soit légitimement on a aussi un apostolat. Et ce qu'on veut, dernier point, on veut que les monastères soient comme des centres vivants de l'édification du peuple chrétien, de la construction du peuple chrétien. Des centres vivants, c'est quoi le propre d'un centre, hein, c'est que le centre, il attire vers lui et que de lui, il rayonne. Voilà, alors ça vous donne une petite idée des éléments essentiels que vous allez retrouver dans ce que je vais vous dire. Alors, quelques petits points d'histoire très rapides, qui vont vous exposer d'une certaine façon comment on en est arrivé, au moins, disons, jusque à notre institution monastique telle qu'elle est aujourd'hui. Alors, pour reprendre ce que Cyril disait, je pense qu'on peut démarrer quand même. On dit que la vie monastique, habituellement, grosso modo, on dit que la vie monastique naît en Orient à la fin du 3e siècle. Le père des moines, il s'appelle
Antoine.
Bravo, très bien.
Antoine.
Et donc, qu'est-ce que pour Antoine déjà, Antoine, donc, qui sent un appel, si vous voulez, à d'abord vendre tout ce qu'il a. Il rentre dans une église et puis on tombe sur l'évangile du jeune homme riche. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? Pour avoir la vie éternelle, eh bien, observe les commandements. Alors, voilà, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu donneras ton père à ta mère. Tout ça, je l'ai fait. Qu'est-ce qui me manque ? Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et suis-moi, tu auras un trésor dans le ciel. Voilà. Notre brave Antoine, il prend ça au pied de la lettre, il vend tout ce qu'il a et il part suivre le Seigneur. Et au fur et à mesure de son itinéraire, de sa vie, on va le voir faire un pèlerinage géographique. Il va aller de plus en plus profond dans le désert, ce qu'on appelle la montagne intérieure. Donc de plus en plus profond dans le désert, de plus en plus haut géographiquement. Et celui qui écrit sa vie, qui est un grand-père de l'Église, un champion de l'orthodoxie, Athanase le Grand, évêque d'Alexandrie, donc, un des plus grands lutteurs pour l'orthodoxie de la foi chrétienne, eh bien, Athanase, évidemment, suggère que le pèlerinage géographique que fait Antoine correspond à un pèlerinage intérieur. Ça, c'est très important, cette notion-là, parce qu'on va la retrouver tout le temps dans le monachisme. C'est que le monachisme est un pèlerinage. Même quand les moines font comme premier vœu, comme nous, la stabilité. On ne rentre pas au monastère pour ne pas bouger, on rentre au monastère pour courir, nous dit Benoît. Pour courir tout le temps. Donc, quelle est cette course ? Elle est évidemment une course intérieure. Donc, au fur et à mesure que Antoine va s'avancer dans le désert de plus en plus profond, il va aller de plus en plus profond en lui-même. Et au fur et à mesure qu'il va monter dans la montagne intérieure, il va aussi s'élever progressivement, essayer de se rapprocher de Dieu le plus possible. Et cet itinéraire que Athanase nous propose, en nous décrivant la vie d'Antoine, eh bien évidemment, il est pour inciter le lecteur à faire un pèlerinage intérieur. Et tout de suite, on aborde un deuxième point, qui n'est pas uniquement historique, mais qui est fondateur, c'est que parmi tous les pèlerinages que la Bible nous présente, il y en a quand même un qui est fondateur, essentiel, c'est le pèlerinage du peuple d'Israël qui sort d'Égypte et qui va rejoindre la terre promise. Donc, vous savez ce point. Après moult péripéties, le peuple d'Israël se retrouve, après l'histoire de Joseph, qui finalement, vendu par ses frères, se retrouve en Égypte, l'adjoint de Pharaon, et nourrit la foule, fait venir finalement toute sa famille, et se retrouve que le peuple d'Israël se retrouve en Égypte. Mais arrive un autre pharaon qui ne connaissait pas Joseph et qui commence à. Persécuter le peuple d'Israël jusqu'à ce qu'ils deviennent esclaves. Et là, Dieu envoie Moïse qui va délivrer le peuple d'Égypte, lui faire traverser la mer Rouge. La mer Rouge s'écarte en deux. Pharaon va se retrouver complètement pris dans la mer qui reflue. Et puis le peuple d'Israël va alors commencer un pèlerinage de 40 jours dans le désert. Mais comme ils n'ont pas été très sages, eh bien, les jours de reconnaissance qui devaient durer 40 jours, Dieu va dire, ils vont durer une année. Donc, chaque jour comptera pour une année. Vous n'allez pas rester en désert 40 jours, vous allez rester 40 ans. Et aucun de ceux qui sera parti d'Égypte va pouvoir rentrer dans la terre promise, sauf deux qui ont été plus gentils que les autres. Et puis, le peuple d'Israël va retraverser un autre fleuve. Hein, ça va se passer un peu pareil que la mer Rouge. Sauf que là, comme c'est un fleuve, il ne va pas se séparer en deux, mais celui qui, la partie qui descend va s'écouler, et puis la partie qui monte va rester comme un mur. Là, voilà. Et puis on va arriver en terre promise. Voilà. Alors cet itinéraire-là, que les Juifs renouvellent chaque année au moment de la Pâque, puisque fête de Pâque, c'est la sortie d'Égypte, hein, passage de l'ange exterminateur qui, finalement, a sauté par-dessus les maisons qui étaient préservé par le sang de l'agneau, eh bien, cet itinéraire-là, les chrétiens, très très vite, et en particulier les moines, l'ont vu comme leur propre itinéraire spirituel. Chacun d'entre nous, par le péché, nous sommes esclaves, prisonniers en Égypte. Pharaon, c'est l'image de Satan, du diable, de l'adversaire. Nous allons échapper aux démons et être vainqueur du péché par le baptême, qui est le passage de la mer Rouge. Dans ces eaux du baptême, eh bien, Satan et ses suppôts vont être tués, comme Pharaon et ses cavaliers et ses chars ont été renversés par les eaux de la mer Rouge quand elles ont reflué. Et puis commence alors 40 ans, disons une vie de traversée du désert. Et puis, par notre mort, nous allons retraverser le Jourdain, et nous allons enfin arriver dans la vie éternelle, la terre promise. Voilà. Cette interprétation-là, on la retrouve tout au long de l'histoire de l'Église. Et les moines en ont été particulièrement imprégnés. Mais eux, ils vont s'intéresser évidemment tout particulièrement aux 40 ans. En disant, qu'est-ce qui se passe dans cette traversée du désert? Eh bien, il se passe que le livre du Deutéronome nous dit au chapitre 7 que pour pouvoir entrer en terre promise, le peuple d'Israël va devoir lutter contre sept ennemis, sept peuplades, qu'il va falloir vaincre avant de pouvoir entrer en terre promise. Donc, c'est les Hittites, les Hivites, les Girgachites, les Amorites, hein, les Cananéens, voilà, les Jébuséens. Choses-là. Donc, sept pays que le peuple d'Israël va devoir affronter avant d'entrer en terre promise. Plus un ennemi qui est l'ennemi majeur, qui est l'Égypte, qui sont toujours derrière eux et qui risquent de les poursuivre. Ces huit ennemis du peuple d'Israël, toute la tradition monastique va les comprendre comme huit ennemis intérieurs qui nous font la guerre et que nous devrons vaincre, éliminer pour pouvoir entrer en terre promise. Et donc, le monachisme va concrètement choisir de partir au désert pour se retrouver dans une situation où le combat spirituel va être le plus fort possible, puisqu'on va reproduire ce que Jésus a vécu, qui est parti au désert poussé par l'Esprit juste après son baptême, pour lutter contre le diable. Donc on reproduit cette lutte de Jésus contre le tentateur. Donc c'est le lieu du combat spirituel. Mais dans la Bible, dans l'Ancien Testament, vous avez une autre dimension qui est la dimension de proximité avec Dieu. Le livre d'Osée en particulier, prophète Osée, chapitre 2, dit que Dieu, c'est le prophète Osée, c'est celui qui a le plus merveilleusement chanté la relation de Dieu avec son peuple d'une manière d'épousaille, hein, selon la symbolique nuptiale. Voilà. Et ben, ma fiancée, je vais, dit Dieu, la conduire au désert, et là je lui parlerai cœur à cœur, parce que le désert c'est aussi le lieu, si vous avez un jour été au désert, vous voyez que c'est à la fois le lieu de la peur, le lieu, et aussi le lieu d'une extraordinaire proximité avec Dieu. Donc, partir au désert, voilà pourquoi les moines, donc, à la suite de Saint-Antoine, vont le faire littéralement. Ils vont
partir vivre au désert, pour vivre le combat spirituel et pour être proche de Dieu. Sachant que le désert a, pour le combat spirituel, une dimension toute particulière, c'est que le lieu où il n'y a pas d'eau, donc apparemment le lieu où il n'y a pas de vie. Donc pour les anciens, aller au désert, c'est aller se combattre Satan sur son propre terrain. C'est-à-dire on va aller combattre l'ennemi chez lui. Donc il y a un caractère de lutte extrêmement fort, extrêmement prégnant.
C'est pour ça qu'on dit la traversée du désert, c'est ça ?
Alors quand on dit la traversée du désert, c'est les grandes difficultés, voilà. Notre traversée du désert. Mais il faut bien voir que dans le monachisme, le fait d'y aller, ça va être quelque chose de très fort. C'est-à-dire que, et ça va être un mouvement absolument spontané. Il y a un livre qui s'appelle « Et le désert devint une cité ». C'est-à-dire qu'il y a eu tellement de gens qui sont arrivés au désert que c'est devenu une ville. Ce désert de gens qui vivaient dans des conditions extrêmement spartiates, de huttes, de branchages, etc. Avec donc cette dimension vraiment de combat spirituel. Alors ces 8 ennemis intérieurs que le moine, c'est tout chrétien, hein, vous voyez déjà en comprenant, là vous voyez déjà le lien très fort qu'il y a entre la vie monastique et la vie chrétienne. C'est-à-dire que la vie monastique, dès le début, elle est considérée comme la vie chrétienne, vécue de façon radicale. Mais elle n'est pas au-delà de la vie chrétienne. Et ça, on retrouve énormément ça chez Benoît. Pour Benoît, la vie monastique, c'est le baptême. C'est le baptême. Puisque cet itinéraire dont je vous ai parlé, c'est l'itinéraire...
Je ne comprends pas ce que vous dites là.
Pour les moines, la vie monastique n'est pas quelque chose de différent de la vie chrétienne, en fait. C'est la vie chrétienne vécue dans toute sa radicalité. Voilà. C'est pas quelque chose de différent.
D'accord.
C'est la vie chrétienne vécue très au sérieux. Voilà. Puisque l'itinéraire dont je vous ai parlé depuis l'Égypte jusqu'à la Terre promise, c'est l'itinéraire de chaque chrétien. Il est, par le péché, prisonnier de l'Égypte. Par le baptême, il traverse la mer Rouge. Le combat spirituel, chacun d'entre nous, quelle que soit notre vocation, on a le vivre. Un jour on mourra et un jour on entrera dans la terre promise, si Dieu nous y accueille. Donc cet itinéraire-là, c'est l'itinéraire de tout chrétien. Ben, le moine, il va essayer de le vivre le plus sérieusement possible. Voilà. Et donc il va aller se mettre dans une condition qui va être littérale. Et on va voir que le monachisme actuel, il est aussi, même si c'est un cloître en Normandie où il pleut tout le temps, un désert. Je veux dire, cette dimension de désert, elle est fondatrice de notre vocation monastique. Donc, nous, le désert, il va devenir symbolique, si vous voulez. Mais eux, les premiers chrétiens, ils l'ont pris de façon radicale. Autre élément qui est important, avant de parler de ces 8 ennemis intérieurs, qui sont tellement importants dans le monachisme, il faut bien comprendre qu'il y a un aspect historique qui va venir favoriser ce départ au désert. Cyril disait la question, est-ce que c'est déjà présent dans l'écriture, hein? On a souvent dit que les moines étaient déjà présents chez les Esséniens, par exemple. Hein? Les Esséniens, communauté dont faisait sans doute partie Jean-Baptiste, hein? Et qui étaient ces moines qui vivaient en communauté, dont on a trouvé des écrits. À Qumran, on a trouvé des écrits complètement ignorés dans des grottes, hein? À Qumran, hein? Et qui décrivent une règle de vie d'hommes vivant dans le célibat, en communauté, à donner à l'ascèse et à la prière. Cependant, le monachisme chrétien, tel qu'il apparaît à la fin du IIIe siècle, est aussi suscité par un événement historique très important, c'est ce qu'on appelle la paix de l'Église, l'édit de Milan en 313. Donc en 313, qu'est-ce qui se passe ? Il y a, après la conversion et le baptême de l'empereur Constantin, eh bien, les persécutions s'arrêtent officiellement dans l'Église. Je dis officiellement, car vous savez qu'il n'y a sans doute jamais eu autant de persécutions contre les chrétiens qu'aujourd'hui. Hein. Donc, dire que tout s'est arrêté au IVe siècle, c'est évidemment bien sommaire. Mais disons, officiellement, les persécutions s'arrêtent dans l'Empire. Donc à partir de ce moment-là, il va naître dans le mouvement monastique une envie, un idéal de remplacer les martyrs. Les martyrs, vous savez, martyr en grec, Kairos en grec, c'est celui qui est le témoin, celui qui rend témoignage. Il est capable de rendre témoignage au Christ jusqu'au sang. Donc ces martyrs, dès quelque part, ils s'arrêtent avec l'édit de Milan. Et donc, la vie monastique se présente au IVe siècle comme un martyr de substitution, c'est-à-dire une autre manière de rendre témoignage. On dit parfois un martyr à petit feu, c'est-à-dire c'est plus une persécution, avec... mais on va donner sa vie, on va donner sa vie en témoignage pour le Christ. On ne va plus la donner par une mort violente, on va le donner par une vie de renoncement. On va quitter ses hautes fonctions. Vous avez parmi les, ce qu'on appelle les pères du désert, donc ceux qui sont partis vivre au désert, des personnes qui avaient extrêmement riches, qui avaient une vie... un des pères du désert qui est un des plus célèbres, qui est celui qui a fait connaître toute cette tradition du désert parce qu'il est le premier à l'avoir mis par écrit, c'est un personnage qui s'appelle Évagre, Évagre, accent aigu, V-A-G-R-E, Évagre le Pontique, on peut dire que c'est l'Asie mineure, si vous voulez, en pontoxin. Eh bien, Évagre était quelqu'un d'extrêmement raffiné, hein, un philosophe qui vivait au palais impérial et qui a tout lâché pour partir vivre au désert dans des conditions de vie extrêmement spartiates. Hein, voilà. Il a gardé son raffinement intellectuel, mais il a tout quitté pour vivre au désert. Donc cet aspect, vous voyez, de tout abandonner et de partir au désert pour rencontrer Dieu et vivre le combat spirituel. Alors, encore quelques petits mots. Je vous disais, importance pour les monachismes de s'intéresser à ces huit ennemis intérieurs. Évidemment, c'est cette nation plus l'Égypte, dont je vous parlais tout à l'heure, que le peuple d'Israël doit combattre avant d'entrer en terre promise, très vite a été... alors c'est ce fameux Évagre dont je vous parlais tout à l'heure, qui est celui qui a synthétisé et un peu formalisé cette idée, mais c'est une idée... Lui, il n'est que la troisième génération des pères du désert, donc il y avait déjà deux générations avant lui de personnes qui ont vécu cette vie, et donc qui... Les petits textes que vous avez, qui sont des apophthegmes, les apophthegmes, ce sont des petits récits, des petites sentences, apophthegme, c'est-à-dire sentence. Vous aviez donc un père du désert qui va en voir un autre, parce que chacun avait un père spirituel. Et tout Abba, tout père spirituel, a lui-même un propre père spirituel, à qui il va demander des conseils, ou raconter des petites histoires. Alors, je ne sais pas quels apophthegmes vous avez, mais souvent, c'est... Un disciple va voir un maître et lui pose une question. Hein, voilà. Vous voyez, une petite sentence. Numéro 6 que vous avez là. Abba Joseph dit, un jour, nous sommes assis avec Abba Pémen. Il parle d'Abba Agathon. Nous lui disons, Agathon est bien jeune. Pourquoi l'appelles-tu Abba? Alors Pémen dit, parce que sa bouche fait de lui un Abba. Voilà. Autrement dit, pas besoin d'être... Ça me donne à reprendre exactement cette sentence. En disant, ce n'est pas l'âge qui fait la... valeur spirituelle, hein, mais à partir du moment où cette personne est remplie de Dieu et qu'elle peut donner des conseils, elle peut être un abba, un père, hein, etc. Voilà. Donc très souvent, vous avez des petites sentences. Hein, un tel dit, voilà. Et puis, parfois, on demande des conseils, parfois, voilà, la pensée me dit telle chose, mes pensées me disent telle chose, et l'autre dit attention. Voilà. Donc c'est un cas de discernement, une relation personnelle entre un disciple et un maître. Et cet aspect de maître, cette relation de maître à disciple, est un élément essentiel du monachisme jusqu'à aujourd'hui. Alors, ces huit mauvaises pensées, hein, ces huit ennemis intérieurs, on va les appeler des mauvaises pensées. Justement, des mauvaises pensées, ce sont donc des pensées qui vont nous faire la guerre, hein, qui vont venir nous enquiquiner intérieurement. Et très vite, le monachisme les a identifiées avec une liste inamovible. Alors, il y a eu quelques toutes petites modifications. La première modification de taille, quand même, a été donnée par Grégoire le Grand, donc un peu plus tard, au 7e siècle, fin du 6e, début 7e siècle. Et pour réduire ce chiffre de 8 au chiffre de 7, ce qui donnera aujourd'hui nos 7 péchés capitaux. Mais à l'origine, ils étaient 8. Ces 8 mauvaises pensées, je vous les cite juste, par ordre croissant d'intensité et de danger. Évagre, qui est le premier à donner cette liste, qui va être suivi ensuite pendant tout le Moyen-Âge, et part du plus charnel pour arriver au plus spirituel. En disant évidemment que la plus difficile, la plus pernicieuse, c'est la plus spirituelle. Hein? Comme qui veut faire l'ange fait la bête, quand on est, parce qu'elles s'enchaînent mutuellement. Hein? L'une entraîne l'autre. Voilà. Puis quand on arrive à la plus spirituelle, pouf, on retombe dans la plus charnelle, etc. Alors ces huit pensées, ce ne sont pas forcément des degrés de gravité, mais leur gravité, c'est qu'elles ont une progéniture, ces mauvaises pensées, et donc qu'en nous attaquant, elles arrivent avec tout un attirail derrière d'autres petits péchés qui peuvent nous contaminer. C'est un peu comme un cheval de Troie, vous savez, vous avez le cheval qui rentre, puis ça s'ouvre, et pouf, il y a toute une armée qui descend. Alors le premier, c'est la gourmandise. Ça commence bien. Ça commence bien.
Alors,
premier.
Ça, c'est mon péché qui est.
En plus, le père t'a regardé.
Ah, mais non,
Il y a deux types de gourmandise, en fait. Il y a deux types de gourmandise. Le mot grec, c'est la gastrimargie. Ouais. La gastrimargie. En fait, il y a deux éléments. C'est vrai qu'à l'origine, c'est plutôt la gloutonnerie, vous avez raison. Ça peut être aussi, au moins dans le monde monastique, la difficile, vous voyez.
Le
côté fine bouche qui est pas de savoir apprécier ce qui est bon, ça c'est pas un péché, mais d'être exigeant sur ce qu'on nous donne. Vous voyez,
D'accord. Hein.
Donc, en fait, dans le monastisme, il y a ces deux aspects. Celui de celui qui bouge beaucoup, qui se remplit quoi, pour combler un vide, voilà. Et puis celui qui est ultra difficile dans ce qu'on lui sert. C'est le premier, c'est le bas de l'échelle.
Heureusement que vous intervenez après le repas, parce que sinon on aurait été mal.
Alors,
on ne nous a pas exposé à ce péché de manière excessive. C'est vrai. Beaucoup de réfléchir avec Céline auparavant, puis on sort.
On s'est dit qu'il ne fallait pas vous alourdir.
Le repas a reçu l'imprimatur du père.
Deuxième péché, la luxure. La luxure. Alors, chez les anciens, en fait, la démesure dans le manger est une porte ouverte à la luxure. Dans la mesure où la manque de maîtrise de soi dans tous les domaines peut laisser ouverte la porte, en fait, à donc tout ce qui est manque de maîtrise de soi dans le domaine de la sexualité. Troisième.
Excuse-moi, j'ai une question.
Oui.
Parce que c'est 8 étapes, c'est pour le moine.
C'est pour tout le monde.
Oui, d'accord, mais le moine n'est pas censé avoir d'activité sexuelle. Donc je comprends pas, en fait.
Il parle toujours dire le rappeler.
Oui, non, mais.
Alors.
C'est quand même, je trouve, très étrange.
C'est pas du tout étrange.
C'est une vraie question.
Dès le début du monachisme, un des caractères principaux du moine, c'est, je n'ai pas parlé du mot moine, hein, le mot monakos, le premier sens, c'est celui qui n'a pas d'épouse. Donc celui qui vit célibataire. Et celui qui vit célibataire, c'est de l'ordre d'un combat, en fait. Hein. C'est pas parce que les femmes ne lui plaisent pas. Il ne rentre pas au monastère parce qu'il n'a pas envie de se marier. Par un appel particulier. Et on dit souvent que sur une ville, il y a un démon de la luxure, sur un monastère, il y en a 100. C'est un apostègue qui dit ça. Ça veut dire que ceux précisément qui vivent dans une vie de célibat consacré risquent d'être soumis à la tentation dans ce domaine-là bien plus que les autres.
Voilà.
D'où, en fait, le fait que très rapidement dans la littérature monastique, cette dimension de la luxure a pris beaucoup d'importance. En fait, hein. Donc c'est pas étrange, en fait. Hein. C'est pas étrange. C'est de l'ordre, finalement, de l'ordre de la mauvaise pensée, c'est-à-dire de celui aussi qui vit dans une de célibat, eh ben, il a toutes sortes d'échappatoires possibles. Alors, je vous dis rien, à l'époque moderne, au 4e siècle, il n'y avait pas Internet. Voilà. Mais la question est la même, en fait. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'il y a aussi tout ce combat intérieur de la pureté du cœur. Hein. Cassien, qui est un des grands disciples des vagues, hein, celui qui a fait connaître toute cette tradition du désert en Occident, parce que lui, il écrit en latin, et dont saint Benoît est tributaire, ce brave Cassien, dans son ouvrage monastique, premier chapitre, il s'intéresse sur la pureté du cœur. La pureté du cœur, ce n'est pas que la pureté du corps, hein, mais la pureté du cœur, c'est celui qui finalement arrive à être complètement débarrassé, hein, de toutes ces mauvaises pensées qui finalement font la guerre sans cesse. Donc, gourmandise qui peut entraîner la luxure qui entraîne, dans l'idée ancienne, hein, ce qu'on appelle l'avarice, qui en fait n'est pas l'avarice au sens, c'est la philargyrie en grec, c'est l'amour de l'argent. Alors, ça se comprend dans cet itinéraire-là, à se dire que, bah, évidemment, pour pouvoir exercer la luxure, il y a besoin, parce qu'à l'époque, la luxure se met, voilà, essentiellement par la fréquentation des prostituées, et qui nécessitait de l'argent. Voilà. Donc, finalement, de la luxure va pouvoir naître l'amour de l'argent. L'amour de l'argent va pouvoir faire naître la colère. Hein, la colère dans ce sens que, eh ben, si jamais on n'y arrive pas, si jamais on résiste, eh bien en fait, finalement, cette pulsion de concupiscible, cette pulsion de désir va pouvoir se transformer en pulsion d'irascible, c'est-à-dire, hein, avec une... Si jamais on continue, on va tomber dans la tristesse, hein, cinquième péché.
La tristesse, c'est un péché.
La tristesse, à l'époque, c'est un péché. On va voir qu'elle a, elle a été supprimée de la liste. La tristesse. Sixième péché, alors là c'est un nom barbare, l'acédie, A-C-E-D-I-E. L'acédie, c'est une espèce de dégoût de la vie spirituelle. Un espèce de paresse spirituelle, si vous voulez, qui nous vient du fait que servir Dieu va entraîner un certain nombre de renoncements qui nous semblent un peu trop raides, en fait. Donc, soit on lâche et on commence à trouver plein de toutes sortes de compensations, hein, pour biaiser avec ce à quoi on s'est engagé, soit finalement, on prend la fuite, on fout le camp. Voilà, donc, hein, deux manières de lutter contre, de subir la cédille, en tout cas d'y succomber, hein, ça va être la fuite ou la recherche de compensation. Qui va pouvoir aller très loin, hein, c'est un péché absolument, c'est le capital des capitales. Hein, c'est pour la tradition monastique le plus important de tous. Parce qu'il est à la charnière du charnel et du spirituel. C'est-à-dire, c'est le démon de midi, ce qu'on appelle le démon de midi. Hein.
La cédille.
Le démon de midi, c'est-à-dire, à midi dans le désert, hein, il fait une chaleur de bête. Et on a mangé qu'à 3 heures dans le désert, les pères mangeaient qu'à 3 heures. Donc là, on n'a pas mangé depuis 3 heures la veille. Donc on est entre midi et 3 heures du lendemain, c'est les heures les pires, hein. C'est les heures où il fait une chaleur incroyable. Et il y a une espèce de faiblesse corporelle dans laquelle le démon va s'entrer pour donner une dimension spirituelle. Et en particulier le fait que midi, vous voyez, le soleil est au zénith, ça veut dire qu'on ne voit pas l'ombre avancer. Le matin, on voit bien le temps passer. Le soir, on voit bien l'ombre qui se couche. Donc midi, c'est l'impression, on a l'impression que
ça
passe, voilà, que ça finira jamais, quoi. 50 heures, voilà. Donc, et on n'a fait que la moitié de la journée. Donc qu'est-ce que ça, on ne va jamais y arriver au bout. Voilà. Donc c'est vraiment ça, là, c'est dit. C'est quelque chose d'extrêmement pertinent, en fait, hein, dont je pense notre monde aujourd'hui est particulièrement atteint de cet assédie. Voilà. Donc qui va entraîner toutes sortes de, vous voyez, de sentiments d'être à l'étroit, là où on est, et donc envie d'aller voir ailleurs, ce serait bougeotte, là. On va zapper. Hein, voilà. Et la difficulté à durer. Donc, sentiment d'être à l'étroit, là où on est, et difficulté à durer dans le temps. Septième péché, capitaux, donc, septième mauvaise pensée, la vanité, la vaine gloire, la vanité. Hein, celui qui est assez fier de lui. Donc celui aussi va disparaître et va être remplacé par un autre. Et puis le dernier, l'orgueil.
Comment on passe de l'acédie à la vanité ?
Alors, comment on passe de l'acédie à la vanité ? Eh bien, assez curieusement, par si jamais on a réussi à tenir. Si on n'a pas fui, eh bien,
Il est fort.
Quand même pas mal. Et la vanité, en fait, est un orgueil extérieur, si vous voulez. C'est aimer qu'on nous fasse des... Qu'on nous fasse des compliments.
C'est du bien aussi des compliments, non ?
Juste compliments.
Voilà.
On peut en faire trop.
Dans une juste mesure.
C'est pas la flatterie, là c'est plutôt la flatterie.
Voilà, c'est plutôt la flatterie. Enfin, non, la vanité est du côté de celui qui reçoit.
Hein. Oui, oui, oui.
Pas de celui qui flatte, mais de celui qui reçoit.
C'est être flatté par la flatterie.
Qui recherche. Voilà, qui recherche la flatterie et qui quand même trouve que. Voilà, qui aime les marques d'honneur, tout ça, enfin tout ce qui est...
Oui, parce qu'on peut être fier de soi quand même.
Voilà, juste... Quand même. Et puis, ensuite, on arrive à l'orgueil, hein, qui est finalement, qui ne se contente plus de cette dimension extérieure, mais qui est plus intérieure. Hein. C'est celui qui est hyper spirituel, donc là, il y a l'orgueil de celui du démon, hein, ultimement. Le démon qui était tellement beau, c'était le plus beau des anges, hein, le démon, Lucifer. C'était tellement beau qu'il a pensé qu'il avait besoin de Dieu. Hein, et paf, et on retombe... Souvent, hein, celui qui pense qu'il est un ange, eh bien, très vite, il se retrouve à faire des choses de la bête. Hein, et on retombe le cycle. Voilà. Alors, les moines ont travaillé cette question-là. Il y a une finesse psychologique derrière ça, absolument extraordinaire. Notre brave Évagre, hein, était un psychologue hors pair. Il y a chez lui, hein, dans ses œuvres, déjà tout ce que nos psychanalystes ont trouvé. Et vous avez une thèse qui a été faite là-dessus, sur... Le lien entre. Une comparaison entre Évagre, le Pontique, donc 3e siècle, 4e siècle, et Carl Jung. Et on vous montre que tout est déjà présent chez Évagre. Alors Évagre dit que lui, il a fait. Donc lui, il ne donne pas de définition, il est dans la description. Donc il y a un traité, je voulais lire quelque chose sur cette question-là, s'appelle le traité pratique d'Évagre. Et dans le traité pratique, Évagre commence à dire qu'il a lui-même tout ce qu'il raconte, il l'a observé chez lui et il a laissé venir la pensée le plus loin possible pour décrire ce qui se passait en essayant de ne pas tomber dans le péché, mais en disant ne faites jamais ça, c'est ultra périlleux. Donc il l'a fait lui pour nous, on n'a plus besoin de le faire, on n'a plus qu'à regarder quand il décrit les phénomènes et puis ensuite la manière de lutter contre les remèdes. C'est extraordinaire de finesse psychologique. Évagre est un grand, grand psychologue. Voilà. Donc, je vous parle quand même un peu de ça, parce que ça a marqué énormément toute la tradition. On a complètement perdu cette histoire-là. Il faut bien se dire que dans tout le Moyen-Âge, tous les traités de vie spirituelle sont organisés autour de ces 8 pensées. Donc, que Grégoire le Grand va réduire à 7, il va enlever la tristesse...
Pourquoi il aurait la tristesse ?
Parce que lui, il veut un chiffre 7.
Et pourquoi ?
Parce que, alors nous, on est complètement aussi... Non, nous, on a perdu complètement cette symbolique des nombres. Hein. Il faut se dire que toute l'Antiquité était très, très... Donc, 7, c'est le nombre de la perfection. Donc, pendant le Moyen-Âge, on fait des tableaux correspondance. Donc, on va mettre 7 colonnes, hein, et on va mettre... en abscisse, en ordonnée, différents éléments. Donc, on va être plutôt 7 lignes, et puis on va faire en colonne, on va mettre les 7 péchés capitaux, les 7 dons du Saint-Esprit, les 7 demandes du Notre Père, les 7 béatitudes, parce que dans la ligne de Saint-Augustin, la 8e béatitude est le résumé de toutes les autres, donc il n'y en a que 7. Les vertus, les 3 vertus théologales, foi, espérance, charité, les 4 vertus cardinales, prudence, force, tempérance et justice. Voilà. Et on va dire, alors, à tel péché correspond telle vertu, telle demande du Notre Père, telle demande du Saint-Esprit. Et alors là, ça va alimenter des polémiques et ils vont se gargariser de cela pendant tout le Moyen-Âge. Alors nous, ça nous semble complètement artificiel, mais en fait, pour eux, c'était extrêmement important, hein, d'essayer de comprendre la vie spirituelle d'une façon un petit peu systématique. Voilà. Donc, Grégoire le Grand, lui, il veut le chiffre 7. Donc il enlève celui qui lui semble le plus
discutable.
Voilà. Alors lui, en fait, il enlève la cédille. Mais il a salé la cédille, Grégoire. C'est plus tard que ça va revenir. Pourquoi ? Pourtant lui, il est moine. Mais il s'adresse, il est pape, Grégoire le Grand, il s'adresse et il dit, en fait, la cédille est vraiment trop monastique. Donc il garde la tristesse, il enlève la cédille, et il remplace la vanité par l'envie. L'envie. Nous, on dirait jalousie. Hein. Ouais. Pas tout à fait la même chose, en fait. Hein. L'envie, c'est plutôt le désir de ce qu'a l'autre, hein, alors que la jalousie, c'est plutôt le désir de ce qu'est l'autre. Mais bah, il y a beaucoup de rangs, hein, si on comprend pas ces distinctions. Bon. Et donc, c'est saint Thomas d'Aquin qui, lui, va remettre la cédille à la place de la tristesse. Voilà. Bon, ça n'a pas beaucoup d'importance, tout ça. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on n'a plus que 7 péchés capitaux. Hein, voilà, et la cédille revient tout doucement. On a souvent eu la paresse. En fait, la cédille, c'est une paresse bien particulière. Vous voyez, ce n'est pas la paresse, c'est vraiment la paresse spirituelle. C'est-à-dire le fait de, finalement, de se dégoûter de Dieu, d'avoir du dégoût pour les choses de Dieu. Donc, quelque chose qui est en fait très profond.
Au sens de Dieu, au sens de la vie également. Quoi. Dégoût de la vie,
ça va jusqu'à... Ouais. Alors, ça peut aller, de fait, ça peut aller jusqu'à... Évagre dit que ça peut aller jusqu'au suicide. En fait. Donc, ça peut être finalement très, très, très pervers. Donc, je vous ai parlé de ça un tout petit peu plus, parce que ça, c'est les récits des pères du désert sont truffés de ce genre de choses. Hein, et tout le Moyen-Âge, vous voyez par exemple, donc je vous parlais de Cassien tout à l'heure, donc Cassien c'est un peu plus, c'est le 5e siècle, un siècle après Évagre. Hein, Cassien va, sa grande œuvre, ça s'appelle les institutions monastiques. Et bien les institutions monastiques, vous avez, tout est basé autour de, chaque chapitre c'est une de ses mauvaises pensées. En fait, il y a un chapitre au départ qui est sur la pureté du cœur, le deuxième chapitre sur l'habit monastique, le troisième chapitre sur l'office divin, et ensuite, vous avez chaque chapitre est une des mauvaises pensées. Donc, ça, pour vous dire que c'est quelque chose qui a eu beaucoup, beaucoup d'importance. Autre aspect important dans le monachisme, hein, c'est l'existence de règles. Le monachisme est géré, si vous voulez, régi par des règles.
Vous m'avez trop intéressé, je suis obligée de rester.
Alors, les règles, quand vous, on parle d'une règle, hein, quoi ça vous fait penser tout de suite, la règle?
La contrainte.
Voilà.
Et puis, c'est immuable, c'est-à-dire c'est fixé.
C'est fixé, rigide un peu.
Oui. L'obéissance.
Ouais.
Sanction.
Une sanction. Voilà. Alors, tous ces éléments que vous avez donnés nous montrent qu'on est très tributaire d'un environnement. Pour les anciens, c'était aucun de ces trucs-là.
Oui, c'était...
C'est une façon de vivre.
Alors, en fait...
C'était la justesse des choses.
Voilà. Alors, on se rapproche un peu plus de ça. En fait, avec une règle, qu'est-ce que vous faites avec une règle?
On
file droit. Vous tirez une droite. Ouais. Et la droite, c'est quoi la droite? La définition de la droite?
Et ben, on va
un point à l'autre.
C'est la plus courte distance entre deux points.
Moi, je dirais que c'est l'infini, au contraire.
Voilà. C'est vrai aussi.
C'est vrai aussi.
C'est vrai aussi.
Mais si vous voulez faire aller le plus vite possible d'un point à l'autre, le plus rapide, c'est la droite. Voilà. Donc, pour eux, la règle, c'était ce qui leur permettait d'aller le plus vite possible, le plus droit possible, d'un endroit à un autre, c'est-à-dire au but qu'ils voulaient se mettre. Donc, la dimension de contrainte, elle est très peu présente. La dimension de sanction, elle est zéro présente. Elle va être une conséquence, si vous voulez, de celui qui a choisi cette règle-là. Ben après, il en prend les moyens. Voilà. Mais le premier élément, c'est vraiment un élément de rapidité et d'ajustement. Hein. C'est-à-dire que essayer de tracer un trait parfaitement droit sans règle, je vous en souhaite. Donc, la règle, c'est une aide. Donc, il faut vraiment prendre ici les règles comme une aide. Comme quelque chose qui va m'aider, qui va me tracer, va être quelque chose qui va me permettre de m'aider à tracer ce trait droit. La règle, quand je prends une des règles en classe, hein, ou je prends un compas pour faire un truc rond, je ne suis pas inquiet. Je le prends d'abord comme un instrument qui va m'aider, hein, comme quelque chose de positif. En fait. Alors, vous avez... toutes sortes de générations. Je vous énumère très rapidement, hein, mais je n'arrête pas. Voilà. Vous avez des noms qui vont, pour certains, vont être connus, d'autres, c'est absolument inconnu. Hein. Donc, première génération de règles, donc vers 400, vous avez trois règles qui sont des règles qu'on appelle des règles mères. Pacôme, Basile et Augustin. Ça, c'est la première génération de règles monastiques, toute première règle monastique. Pacôme, c'est la règle cénobitique, c'est-à-dire ceux qui vivent en commun, alors que dans les Pères du désert, hein, on a quelque chose de beaucoup plus solitaire, ce qu'on appelle érémitique ou anachorétique. Les anachorètes ou les ermites, c'est synonyme, sont des gens qui vivent tout seuls. Les cénobites, c'est ceux qui vivent en communauté, comme nous. Deuxième génération, vers 420, on a Cassien, les institutions dont je vous ai un peu parlé. Voilà. Donc Cassien dans les institutions vient faire connaître, parce qu'il écrit en latin, au monde occidental, les écrits, la doctrine, les apophthegmes, des pères du désert. Nous, en Occident, on avait déjà Augustin. Première règle occidentale, Augustin. Mais Augustin n'est pas tributaire des pères du désert. Il est indépendant. Hein? Lui, c'est un évêque qui vit avec ses prêtres. Augustin à Hippone. Voilà, il vit en communauté et il écrit une règle qui est essentiellement polarisée sur la charité, les relations fraternelles. Benoît va beaucoup s'en inspirer à la fin de sa vie. Mais d'un point de vue purement honnête, Augustin, ce n'est pas une règle vraiment monastique. Aujourd'hui, les moines ne suivent pas la règle de Saint-Augustin. Ceux qui suivent la règle de Saint-Augustin, on appelle les chanoines.
Les quoi ?
Pas les chamoines, les chanoines. Chanoines réguliers, ce qu'on appelle. Hein? Les prémontrés, par exemple. Vous aviez un moine qui était en blanc, là, chez nous, avec nous tout à l'heure. Voilà. C'est un prémontré de tout près de Caen. Alors, vous en avez...
Il est en retraite.
Vous en avez dans le sud, près de Carcassonne, là, Narbonne, là, les chambres de la Mère de Dieu. Vous avez donc un conque, vous avez. Voilà, etc. Vous avez qui sont en blanc, eux ils sont en blanc, vous en avez qui sont en noir. Par exemple, chez les chanoines de Champagne-sur-Rhône, voilà. Donc eux, ils suivent la règle de Saint-Augustin. Donc 420, c'est la deuxième génération, Cassien. Et une autre grande règle, qui est complètement inconnue, mais qui a eu énormément d'impact, s'appelle la règle des quatre pères. Voilà.
Colomban,
c'est un peu plus tard.
C'est plus tard, mais... ouais.
Là, la règle des quatre pères, c'est Sérapion, Paphnus, Macaire le Grand et Macaire l'Alexandrite.
Quand vous dites des règles, en fait, c'est des règles de vie, c'est ça ?
Oui, c'est des règles de vie. Des
pour ne
des
pas
écrits.
Tomber dans les huit péchés.
Voilà, alors je pense que ça va un peu plus loin que ça. Ça va vraiment donner des règles parfois très concrètes d'administration. Hein, par exemple, la règle de Savonnage, je vais en dire un petit mot tout à l'heure. Vous avez la première partie qui est une partie plutôt doctrinale. Et la deuxième partie, c'est une règle très concrète. Voilà, on fera telle chose, lèvera telle heure. Voilà, un coutumier, si vous voulez. Troisième génération, voilà, ça n'a aucune importance, c'est des choses, des choses un peu inconnues, hein, voilà, la seconde règle des pères, voilà, et la règle de Pacôme, en bref, voilà, peu importe. Quatrième génération, un nom à retenir, quatrième génération, donc là on est vers 500, on appelle la règle du maître, donc sur laquelle je reviendrai, qui est le modèle de Benoît. Benoît s'est énormément inspiré de cette règle. Et alors, la règle du maître, c'est en gros aux alentours de Rome. Hein. Et plus près de chez nous, on a à Césaire, hein, Césaire d'Arles, la règle de Saint Césaire à Arles, règle pour les vierges. Et un peu plus tard, il a écrit aussi une règle pour les moines. Cinquième génération, règle de Saint-Benoît, 530, 550. Très tributaire de la règle du maître et aussi un petit peu d'Augustin. Mais il connaît Pacôme, Basile et Césaire. Sixième génération, donc on a la deuxième moitié du sixième siècle. Féréol, vous voyez, c'est des noms qu'on ne connaît pas moins. Hein. Et la règle de Paul et Étienne, qui sont des petits monastères près de Rome. Pas beaucoup d'intérêt. Septième génération, en revanche, Colomban.
Et en Espagne, une règle très célèbre, qu'on a complètement oubliée, Saint Fructueux de Braga. Qui est en fait maintenant plutôt au Portugal, mais est à l'Espagne, en Espagne. Voilà, donc, vous voyez, juste pour avoir ça, ne retenez pas beaucoup ça, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais pour vous montrer comment, vous voyez, au fur et à mesure de ces des années, des générations, vous avez cet aspect de règle, hein, va très vite, c'est-à-dire, si vous voulez, de codification de la vie. Alors, un petit mot de la règle de Benoît, on voit que le temps passe. Donc, la règle de Benoît, hein, donc, né 481, mort 567.
Donc lui c'est un saint, c'est ça?
C'est un saint.
Et il faisait quoi avant d'être saint?
Alors, Benoît...
Il était moine?
Il était moine.
Ah oui, ah ben je savais pas.
C'est le fondateur de l'ordre bénédictin. Donc c'est le fondateur.
Désolé.
Pas de problème. Saint Benoît. Donc Benoît, il est né à Nursi. Nursi, ça se trouve en Italie, près de Spolète. Et donc, Benoît est né à Nursie. Il avait une sœur qui s'appelle Scolastique, qui est sainte aussi, qui n'a pas de démoniaque.